Vous écoutez Radio France Internationale, il est 20h30 à Paris et Kinshasa, 19h30, temps universel.
Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité africaine en 10 minutes et on commence par ce nouvel appel de l'Angola à un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. La présidence angolaise demande une trêve à partir de dimanche pour instaurer un climat propice aux négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Négociations prévues mardi prochain. Nous parlerons aussi de la réaction de l'Afrique du Sud à l'expulsion de son ambassadeur aux États-Unis. Ebrahim Rassoul est accusé de nourrir la haine raciale envers les États-Unis et le président Donald Trump. Pretoria prend acte de la décision de Washington et appelle au respect des règles diplomatiques. Nous reviendrons également sur l'annonce de l'arrêt de la fuite de gaz au large du Sénégal et de la Mauritanie. Annonce faite jeudi par l'opérateur britannique BP. L'association des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis appelle l'État sénégalais à vérifier que la fuite est bien colmatée. À 3 jours des discussions directes entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 sur la médiation angolaise, Luanda lance un nouvel appel au cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. La présidence angolaise demande donc une trêve à partir de ce dimanche 16 mars à minuit. Une trêve destinée, dit-on, à instaurer un climat propice aux négociations. Rappelons que les précédentes tentatives ont échoué. Le dernier cessez-le-feu, censé entrer en vigueur le 4 août dernier, n'avait pas été respecté malgré un accord signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'Angola. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Les précisions de Patrick Ligodi.
Pendant cette trêve, les belligérants sont appelés à cesser le combat, à protéger les civils et à ne pas avancer sur de nouvelles positions. L'objectif, selon la facilitation angolaise, est d'éviter toute escalade avant l'ouverture des pourparlers de paix. Pour sa part, Kinshasa ne s'est pas encore officiellement prononcé sur l'appel de Luanda et de son côté, l'AFC M23 affirme respecter un cessez-le-feu depuis mars 2024, se défendant de ne réagir qu'en cas d'attaque. Une version contestée par les autorités congolaises. Sur le terrain, la situation reste tendue. Au sud Kivu, à Chirunga, dans le territoire des Kabaré, les combattants de l'AFC M23 sont signalés depuis vendredi. Des affrontements sporadiques ont été rapportés. En Nord Kivu, des tirs ont encore été entendus hier dans la zone des Kachébéré, dans le territoire de Walikale. La question du cessez-le-feu et de ses modalités sera aussi discutée le 17 mars à Harare. Une réunion des ministres des Affaires étrangères, de la SADC et de l'EAC doit établir un cadre plus contraignant.
Patient Ligodi. Dans l'actualité également, un nouvel épisode du durcissement des relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. L'ambassadeur de Pretoria à Washington a déclaré persona non grata. Le diplomate a 72 heures pour quitter le territoire. Ebrahim Rassoul est accusé de nourrir la haine raciale envers les États-Unis et le locataire de la maison blanche. L'ambassadeur sud-africain avait qualifié la politique du président Donald Trump de politique de suprématie blanche. L'Afrique du Sud dit prendre acte de cette décision et appelle au respect des règles diplomatiques. À Johannesburg, les précisions de Valentin Hugues.
La présidence sud-africaine a réagi de façon très brève, tout comme le ministère des Affaires étrangères, en prenant acte d'une décision qualifiée de regrettable. Vincent Magwenya, porte-parole du président.
La présidence demande instamment à toutes les parties prenantes et concernées de maintenir le décorum diplomatique auquel il s'était engagé précédemment. L'Afrique du Sud reste déterminée à construire une relation mutuellement bénéfique avec les États-Unis d'Amérique.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a utilisé X pour annoncer la nouvelle. Ces tensions par réseau social interposé sont devenues monnaie courante depuis la réélection de Donald Trump. Une diplomatie en ligne qu'analyse le docteur Kingsley Makubela, ancien diplomate et spécialiste des relations internationales.
Conformément à la Convention de Vienne, s'il y a un différend entre États, vous communiquez par les voies diplomatiques classiques. Avec l'administration Trump, on observe une tendance à utiliser les réseaux sociaux. Je pense que l'ambassadeur s'est mal comporté. Vous ne pouvez pas vous en prendre à votre président hôte. Seulement quand il y a de bonnes relations, si un ambassadeur se comporte mal, on demande au pays de le rappeler. Nous connaissons les tensions entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. C'est peut-être ce qui explique cette réaction.
Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Marine Le Pen, la présidente du groupe parlementaire français du Rassemblement National ce samedi à Amdjaras, dans le nord-est du Tchad. Elle y a rencontré le président Mahamat Idriss Déby pour un entretien. Demain matin, matin. Elle sera reçue par le président de l'Assemblée nationale et les présidents des groupes de partis avant de se rendre au Sénat. C'est la deuxième fois que la leader de l'extrême droite française se rend au Tchad. En 2017, elle avait été accueillie par Idriss Déby Itno, le père de l'actuel président tchadien. Le gouvernement éthiopien suit attentivement la situation au Tigré, déclaration du chef de la diplomatie éthiopienne, alors que les tensions de ces derniers jours entre deux factions du parti au pouvoir menacent d'engendrer une nouvelle guerre. Pour rappel, le Tigré a été le théâtre entre novembre 2020 et novembre 2022 d'un des conflits les plus violents des dernières décennies, conflit entre les forces fédérales appuyées par des milices locales et l'armée érythréenne et les rebelles tigréens, une guerre qui avait coûté la vie à au moins 600 000 personnes selon l'Union africaine. La junte militaire du Burkina Faso réfute ce samedi tout massacre de civils par l'armée dans l'ouest du pays en début de semaine. Réaction des autorités après la publication de vidéos d'exactions qui ont suscité l'indignation. Vendredi soir, l'ONG Human Rights Watch a appelé la junte à enquêter de manière impartiale et poursuivre de manière appropriée tous les responsables de ces crimes graves. Human Rights Watch a dénombré 58 corps dans les vidéos, mais estime que le bilan pourrait être plus lourd. Retour maintenant sur l'annonce de l'arrêt de la fuite de gaz au large du Sénégal et de la Mauritanie. Annonce faite jeudi par l'opérateur britannique BP. Cette fuite découverte il y a 3 semaines sur l'un des 4 puits du site offshore de Grand Tortue à Meyim avait suscité l'inquiétude et l'indignation d'ONG de protection de l'environnement comme Greenpeace. L'association des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis, ville côtière du nord du Sénégal, proche du site gazier, s'était elle aussi inquiétée de la menace d'une pollution sournoise dont les impacts pourraient être irréversibles. Aujourd'hui, elle appelle donc l'État à vérifier que la fuite est bien colmatée. Mamadou Sarr est le président de la commission environnement et protection de l'association.
Nous, en tant que pêcheurs, pour ce qui est maintenant de la véracité des faits, on contrôle ce qui doit se faire et ce contrôle-là, nous le laissons aux autorités, à l'État du Sénégal, au ministère de l'Environnement qui doit faire ce travail de contrôle pour rassurer les Sénégalais, pour rassurer les pêcheurs. Effectivement, donc l'incident a été réparé.
C'est-à-dire que vous êtes toujours inquiet?
Oui, on est toujours inquiet. Parce que vous savez, l'activité d'exploitation de gaz, c'est quelque chose qui est nouveau chez nous. Donc, s'il y a des fuites de gaz, mais naturellement, en tant que pêcheur, on se doit d'être inquiet. Parce que la mer, nous, on n'a que ça. Nous appelons l'État à être vigilant, à être ferme sur le suivi, à obliger ces opérateurs pour que ces opérateurs respectent les lois. Parce qu'il y a un code de l'environnement qui est là. On ne peut pas donner une licence à des opérateurs et leur donner un blanc-seing pour qu'ils puissent polluer, faire ce qu'ils veulent. Nous, on ne l'acceptera pas.
Voilà, propos recueilli par Léa Lisa Vesteroff. Et puis dans un communiqué, l'opérateur britannique affirme que des tests supplémentaires, une surveillance et des inspections visuelles se poursuivront pendant un certain temps afin de garantir qu'aucune autre fuite ne se produise et assure que l'impact environnemental de la fuite est actuellement évalué comme négligeable. C'est la fin d'une saga qui a dégradé les relations entre les Comores et Madagascar. La saisie en 2021 de 28 lingots d'or à l'aéroport de Moroni. Les lingots réclamés par Madagascar ont finalement été rendus. Épilogue d'un feuilleton qui aura duré plus de 3 ans. Le récit de Nicolas Fedman.
Décembre 2021, sur le tarmac de l'aéroport de Moroni, 3 hommes sont interpellés dans leur bagage. Les gendarmes comoriens découvrent 28 lingots d'or, 49 kilos de métal précieux pour une valeur de 2,5 millions de dollars. La saisie, un record pour les Comores, met à jour l'existence d'un vaste trafic. D'après les enquêteurs, les lingots partaient de Madagascar à bord de bateaux de pêche cachés dans des glacières avant de transiter en avion privé à l'étranger. Les deux ressortissants malgaches sont rapidement extradés vers la grande île. Mais les lingots, eux, restent dans les coffres de la Banque centrale comorienne. De quoi échauder Tananarive, qui va jusqu'à suspendre ses liaisons aériennes et maritimes avec son voisin. Si des raisons sanitaires sont invoquées, certains y voient un moyen de pression pour récupérer les précieux lingots. C'est chose faite. Depuis vendredi, l'or a enfin pu être rapatrié à Madagascar. Les deux gouvernements évoquent dans un communiqué un accord mutuel qui témoigne de leur bonne relation de voisinage. D'après la Gazette des Comores, Tananarive aurait tout de même dû payer une taxe pour marchandises non déclarées, 62 millions de francs comoriens, soit plus de 130 000 dollars.
Récit signé Nicolas Feldman. Et puis le bilan du cyclone Jody a frappé lundi le Mozambique avec des rafales à plus de 195 km/h. C'est alourdi. Ce samedi, l'Institut mozambicain de gestion des risques et désastres parle de 16 morts. Les autorités ont également recensé 2 disparus et près de 60 blessés. Elles font aussi état de plus de 300 000 personnes affectées et près de 33 000 habitations détruites. Il est 20h40 à Paris.